Un journal présenté ce soir par Olivier Vogel. Bonsoir Olivier.
Bonsoir. La Grande-Bretagne est le quatrième pays le plus touché au monde par le coronavirus qui continue de progresser. Le gouvernement vient de décider de reporter de 2 semaines la réouverture de certains lieux publics. Précision de Marie-Pierre Véraud.
Bruxelles donne sa bénédiction à la naissance d'un géant du rail, le rachat par Alstom de son concurrent canadien Bombardier Ferroviaire. Mais le groupe français devra se séparer de son usine alsacienne qui emploie 750 personnes. Nous retrouverons Pierre Benazé à Bruxelles.
Le PIB de la France s'enfonce, moins 13,8%, moins sévère que prévu pour le ministre de l'économie Bruno Le Maire.
À Hong Kong, les élections législatives de septembre sont repoussées d'un an. La chef de l'exécutif Carrie Lam invoque la hausse du nombre de cas de Covid. L'opposition qui se préparait à une victoire sans précédent crie au scandale. Nous retrouverons sur place Florence de Changy.
La Floride, déjà durement frappée par le Covid, se prépare à l'arrivée de l'ouragan Isaias. Les centres de dépistage ont commencé à fermer à titre préventif. Correspondance à New York de Loïc Loury.
Près de 674 000 morts sur la planète, c'est le dernier bilan de la pandémie de coronavirus depuis son apparition en Chine fin décembre.
Les États-Unis, le Brésil et le Mexique sont les pays les plus touchés. L'Espagne vient d'annoncer sa plus forte hausse de cas de contamination en 24 heures. Depuis la levée des mesures de confinement, 1525 cas. Et puis le Royaume-Uni est le quatrième pays le plus touché au monde avec 46 000 morts. Il a décidé aujourd'hui de reporter de 2 semaines la réouverture de certains lieux publics prévus dès demain, ce en raison d'une hausse des cas de Covid. Marie-Pierre Véraud.
Les patrons de casinos, bowling, salles de spectacle et autres salons de beauté attendaient ce 1er août avec impatience. Après des mois d'une fermeture historique, ils allaient enfin accueillir de nouveau le public. Mais à la veille du grand jour, Boris Johnson a douché leurs espoirs lors d'une conférence de presse organisée à la hâte. Si les admissions à l'hôpital et le nombre de décès restent en effet contenus dans ce pays qui est toutefois le plus endeuillé d'Europe, les cas de contamination se multiplient. Le Premier ministre britannique a donc expliqué qu'avec ces chiffres qui augmentent, il estime qu'il faut appuyer sur la pédale de frein pour garder le virus sous contrôle. Marche arrière également sur le retour du public dans les enceintes sportives. Le port du masque va également être étendu dans 1 semaine, notamment au musée et dans les lieux de culte. L'objectif est donc bien sûr de contrôler la propagation du virus et d'éviter in fine un reconfinement drastique. Certaines régions du nord de l'Angleterre n'échappent pas, elles, à des mesures plus strictes. Il y est notamment interdit aux membres d'un même foyer de côtoyer d'autres familles, même à l'extérieur. C'est le cas par exemple à Manchester. Critiqué pour sa lenteur au début de l'épidémie, quand il pariait sur une immunité collective, Boris Johnson attend donc désormais ne plus laisser prise aux critiques.
Marie-Pierre Véraud. En France, les préfets pourront imposer à tout le monde de sortir masqué dans les lieux ouverts. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a annoncé ce matin. Article masque à retrouver sur notre site franceculture.fr. La course au vaccin contre le coronavirus, boostée à coups de billets verts, 2,1 milliards de dollars, 1,8 milliard en euros, montant d'une précommande de 100 millions de doses que les États-Unis viennent d'adresser aux Français Sanofi et aux Britanniques GlaxoSmithKline. Le vaccin des deux laboratoires est en cours de développement. Les essais cliniques doivent démarrer en septembre. La semaine dernière, les USA avaient déjà conclu un accord comparable avec le laboratoire américain Pfizer et son partenaire BioNTech. Puis on a appris cet après-midi que l'Union européenne vient elle aussi de passer commande à Sanofi 300 millions de doses de son futur vaccin.
À Paris, le tribunal de justice examinait cet après-midi les requêtes des chauffeurs de bus de la RATP.
Ils s'estiment mal protégés face à la Covid avec des bus désinfectés une fois par jour à la lueur des frontales. Mais seules 3 de leurs 5 revendications ont été entendues par la justice, ce qui reste malgré tout encourageant pour Mehdi Bouzaïda, c'est l'avocat des chauffeurs de bus de la RATP.
On avait une demande concernant l'évaluation des risques liés à ce virus Covid-19. On faisait une demande sur la désinfection des bus, on faisait une demande sur le travail avec les sous-traitants. On faisait également une demande sur l'information et la formation des salariés. Et on faisait une cinquième demande sur le fait d'associer les représentants du personnel à tout ce travail de prévention et de protection. Le juge, si on retient cette présentation schématique, en gros, retient trois de nos demandes. C'est une décision satisfaisante parce que dans ces dossiers-là, et vu le contexte, le risque était aussi que le juge dise simplement « la RATP a fait finalement ce qu'elle a pu ». Où elle a fait un certain nombre de choses, donc je considère que c'est suffisant et je rejette toutes vos demandes. Là, on a quand même des demandes qui sont satisfaites. Maintenant, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Il y a des demandes qui ne le sont pas et des demandes qui nous paraissent importantes, et notamment sur la fréquence de désinfection, qui, on n'en démord pas, est un point crucial. Et encore une fois, l'analyse qu'on fournit et nos demandes sont basées pas uniquement sur notre avis, sur notre perception des choses, mais s'appuie sur les recommandations des médecins du travail, les injonctions, les demandes faites par l'inspection du travail.
Mehdi Bouzaïda, l'avocat des chauffeurs de bus de la RATP, joint par Camille Kaufmann. La PMA pour toutes, dernière ligne droite pour le réexamen du projet de loi de bioéthique par l'Assemblée. Les députés devraient l'adopter ce soir, après une semaine de débats mouvementés au sein de la majorité. En revanche, un amendement a rejeté la suppression de toute discrimination envers les homosexuels qui donnent leur sang. Il avait pourtant été adopté en commission. Les homosexuels sont tenus à une abstinence de 4 mois avant de pouvoir donner leur sang.
La Commission européenne donne son feu vert à la naissance d'un géant du rail.
Elle a banni le rachat par le français Alstom de son concurrent canadien Bombardier, montant de la transaction 6 milliards d'euros. Un super groupe de 75 000 salariés pour un chiffre d'affaires de 15,5 milliards d'euros. L'objectif, c'est de concurrencer le numéro 1 mondial du secteur, le chinois CRRC. Mais pour éviter un monopole sur le transport régional, Bruxelles a assorti ce rachat d'une contrepartie, la cession du site Alstom de Reichshoffen dans le Bas-Rhin, un coup dur pour ses 750 salariés qui fabriquent des TER. À Bruxelles, les précisions de Pierre Benazet.
En fait, disons que les conditions qui sont posées par la Commission européenne pour donner son feu vert sont en fait les concessions déjà offertes par les deux entreprises il y a 3 semaines. Par exemple, justement, cette vente d'une usine berlinoise de Bombardier Transport et celle de l'usine alsacienne de Reichshoffen pour Alstom. La Commission a donc finalement donné son autorisation sans demander de nouvelles concessions. Et pourtant, dans ce dossier Alstom-Bombardier, ses craintes de position dominante de la nouvelle entité étaient triples. Elle craignait à l'origine des distorsions de concurrence sur tout le marché pour les trains à grande vitesse, sur les marchés français et allemand pour les trains grande ligne, sur le marché néerlandais pour la signalisation embarquée. D'un côté, c'est la preuve que les leçons de l'échec de la fusion avec Siemens en février 2019 avaient été tirées par Alstom, qui a présenté avec Bombardier Transport un dossier bien ficelé, qui avait toutes ses chances d'être approuvé. D'un autre côté, après l'affaire Siemens, il y avait eu aussi en parallèle une demande pressante des gouvernements français et allemands auprès de la Commission européenne pour qu'elle se montre plus favorable à la création de géants industriels européens. Et cet appel a été renouvelé par le gouvernement français après l'annonce en février dernier du rapprochement entre Alstom et Bombardier Transport. Et en un mois après la présentation du dossier par Alstom et par Bombardier, il semble que l'effort politique combiné à un dossier solide ont donc été payants auprès des services de la concurrence de la Commission européenne.
Pierre Benazet à Bruxelles. Dans les airs, le gouvernement rassure Air France après l'annonce d'une perte massive par la compagnie aérienne. L'État sera au rendez-vous, a déclaré sur LCI la ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher, n'excluant pas une montée en capital.
Le PIB de la France s'enfonce, moins 13,8% sur la période avril-juin. L'INSEE a publié une nouvelle estimation ce matin.
Un chiffre sévère, mais moins sévère que prévu, s'est consolé Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Que nous réserve l'avenir? Décryptage avec Sylvain Bersinger, économiste au cabinet d'études Asterès.
Si l'épidémie se tasse dans les mois à venir et qu'il y a une reprise très rapide sur la fin d'année et en 2021, les séquelles à long terme risquent d'être assez faibles. On va assez rapidement, dès 2021, peut-être 2022, revenir sur le trend de croissance d'avant-crise. Si par contre l'épidémie perdure et que la reprise est plus lente, il peut y avoir des conséquences à long terme, parce qu'il peut y avoir une hausse très forte des faillites d'entreprises, donc des pertes de capital. Les chômeurs peuvent être durablement en dehors de l'emploi, ce qui complique leur retour à l'emploi ensuite. Alors là, oui, il peut vraiment y avoir des conséquences à long terme et un retour beaucoup plus lent sur le trend de croissance d'avant-crise.
Est-ce que pour que la croissance revienne, il faut que les Français consomment leur épargne?
Oui, alors la consommation des ménages, c'est un peu plus de la moitié du PIB. Donc bien entendu, la dynamique de consommation des ménages est cruciale pour la dynamique de croissance dans son ensemble. Donc pendant le confinement, il y a eu une grosse épargne, plusieurs dizaines de milliards d'euros qui s'est constituée. Une variable importante pour la reprise, c'est est-ce que les Français vont consommer cette épargne ou non. Il y a à ce niveau-là des signaux un petit peu ambigus. Du côté plutôt positif, on a vu au mois de juin que la consommation a fortement repris de manière plus rapide que ce que beaucoup d'économistes anticipaient. Mais il y a aussi des signaux négatifs, notamment la baisse de la confiance des ménages en juillet, et en juillet également les ménages qui ont indiqué vouloir augmenter leur niveau d'épargne. Bien sûr, le comportement de consommation des Français sera très important, mais à l'heure d'aujourd'hui, on a un peu des signaux contrastés pour faire des prévisions à ce sujet.
Sylvain Bersinger, économiste au cabinet d'études économiques Asterès, joint par Anne-Laure Chouin. Sur le plan mondial, l'économie mondiale enregistre un plongeon historique avec un recul de 12,1% dans l'eurozone et les États-Unis en récession. À Anglette, au Pays Basque, un incendie a détruit cette nuit et ce matin 165 hectares de végétation. L'incendie, d'origine encore inconnue, a pris dans la forêt de Chiberta, un secteur boisé au centre-ville, bordé notamment par un parcours de golf et des villas de luxe. 11 maisons ont été touchées par les flammes. Le feu s'est propagé très rapidement et les habitants d'Anglette ont dû être évacués. À Hong Kong, les élections législatives prévues le 6 septembre ont été repoussées d'un an. La chef de l'exécutif, Carrie Lam, l'a annoncé aujourd'hui. La raison invoquée, c'est la hausse du nombre de cas de coronavirus. Le camp pro-démocratie, qui se préparait à remporter une victoire sans précédent, crie au scandale. Les explications de notre correspondante à Hong Kong, Florence de Changy.
Now, this is... An important and tough decision.
En annonçant qu'elle repoussait les élections d'un an, du 6 septembre 2020 au 5 septembre 2021, la chef de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, a indiqué que c'était la décision la plus difficile qu'elle ait eue à prendre au cours de ces 7 derniers mois. Mais le camp pro-démocratie accuse le gouvernement d'utiliser la crise sanitaire comme une excuse pour annuler un scrutin où le gouvernement risquait une cuisante défaite. Depuis sa victoire écrasante aux élections de district de novembre dernier, l'opposition pro-démocratie était bien partie pour gagner la majorité au Parlement, et ce, en dépit d'un système favorable au camp pro-Pékin. Avant même l'annonce du report, 22 députés de l'opposition avaient publié un communiqué affirmant que repousser les élections équivaudrait à confisquer le pouvoir et créerait une crise constitutionnelle sans précédent qui remettrait en cause tous les fondements de la région administrative spéciale. Sans surprise, Carrie Lam a indiqué avoir pris sa décision avec l'accord de Pékin. Tout indique que c'est plutôt Pékin qui lui a donné ses instructions.
Florence de Changy à Hong Kong. Les États-Unis ont condamné ce report des élections hongkongaises. L'Allemagne, pour sa part, a décidé de suspendre son traité d'extradition avec Hong Kong. Les États-Unis qui ont imposé vendredi et aujourd'hui des sanctions à une importante organisation paramilitaire présente dans la région chinoise du Xinjiang, l'accusant de violation des droits des Ouïghours et d'autres membres de minorités musulmanes. Le Trésor américain a annoncé le gel des éventuels à l'avoir aux États-Unis de Xinjiang Production and Construction Corps, subordonné au Parti communiste chinois qui dirige ses propres installations, universités et médias dans cette région du nord-ouest de la Chine. Dans le sud des États-Unis, les Bahamas et la Floride, déjà durement frappés par la Covid, se préparent à l'arrivée de l'ouragan Isaias. Plusieurs centres de dépistage Covid ont été fermés préventivement et la région se prépare ces deux prochains jours à une montée en puissance de l'ouragan. Correspondant sur place de Loïc Glory.
Avec encore hier 10 000 nouveaux cas et plus de 250 morts du Covid, un record en une seule journée, la Floride n'avait pas besoin d'Isaias. Face à la progression de cet ouragan, les autorités en effet ont dû fermer certains centres de dépistage, financés par l'État, de simples tentes qui ne résisteraient pas au déluge. A priori, les sites devraient rouvrir au plus tard le 5 août au matin, mais cette pause dans les tests est loin d'être la bienvenue. Autre problème, plus grave, quoique pour l'instant hypothétique, la gestion d'éventuelles évacuations massives si Isaias venait à gagner en puissance. Le maire du comté de Miami ainsi a exprimé son inquiétude. Comment garantir la distanciation physique entre personnes évacuées, en particulier dans des abris bondés? Pour l'instant, la Floride toutefois n'en est pas là. Isaias devrait atteindre ses côtes entre samedi et dimanche. La trajectoire précise de l'ouragan et sa force par ailleurs sont encore à l'état d'interrogation. Mais la saison des ouragans cette année s'annonce exceptionnelle. Selon les médias, météorologues et la Floride, comme les autres États côtiers du Sud touchés par le Covid, feraient mieux de se préparer au pire.
Loïc Loury. La météo demain, après l'explosion du thermomètre aujourd'hui, on peut s'attendre à une très légère baisse demain. Le thermomètre continuera à flirter avec les 39 degrés du côté de Lyon, 35 à Paris ou 37 à Lille. Une dégradation nuageuse venant de l'Atlantique envahira progressivement le pays. Dans la matinée, il est 18h15, vous écoutez France Culture, c'est la fin de ce journal préparé avec François-Charles Domergue.